Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Stéphanie Peel. Stéphanie Peel est chercheuse à l'ULB, doctorante. Elle a travaillé en langue et littérature, elle a travaillé en communication, en études de genre, et elle mêle tout ça et bien dans une recherche et surtout dans un ouvrage, puisqu'elle vient de publier un livre qui s'appelle « Les voix invisibles », un livre consacré à la médiumnité féminine et qui a été publié chez Magie Cité. Donc je vais lui laisser la parole tout de suite, Stéphanie Peel.
Je m'appelle Stéphanie Peel, je suis chercheuse à l'Université libre de Bruxelles. Alors j'ai un peu une double casquette, donc j'étudie de la littérature française et romane ici à l'ULB et j'ai aussi par la suite fait communication à l'UCL. J'ai aussi fait une formation en études de genre parce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé ma recherche que je fais sur fonds propres, donc c'est vraiment une recherche qui me tient à cœur et qui m'a toujours un peu suivie. Donc c'est vraiment l'influence des courants ésotériques en fait sur la position des femmes et comment ça leur a permis de trouver des arguments pour pouvoir penser leur rôle, penser leur identité et pourquoi pas effectivement s'engager. Donc il y a quand même une dimension un peu de sciences politiques et donc il me manquait un petit peu des outils. Et donc j'ai fait effectivement une formation en études de genre pour pouvoir étudier ça avec un ancrage théorique qui me semblait vraiment essentiel et nécessaire et qui me manquait parfois dans ma formation. Et donc voilà, je suis à la fois communicante et à la fois chercheuse et j'aime assez bien ces deux casquettes, ça me permet vraiment d'avoir un pont dans la société telle qu'elle est maintenant et en même temps dans le monde de la recherche qui peut paraître abstrait, un peu dans sa tour d'ivoire, mais qui finalement est extrêmement ancré et qui doit être ancré. Pour moi, c'est un petit peu un cheval de bataille, la vulgarisation scientifique et comment la recherche doit être. C'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça nous apporte, comment est-ce qu'on porte un regard critique peut-être sur une histoire, sur un passé, pas juste pour raconter une histoire, mais pour pouvoir nous nourrir et nous infuser de ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, et pouvoir peut-être agir différemment.
Stéphanie Peel, ben justement, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la rencontre de ces deux tendances dont vous parlez et qui se retrouvent à travers votre parcours universitaire, puisque il y a un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle « Les voix invisibles, médiumnité féminine, ou le pouvoir d'écrire ». Alors vous me disiez juste avant l'interview, en fait moi j'ai fait les choses à l'envers. En général on écrit une thèse et puis on en tire un ouvrage, mais moi j'ai fait la thèse, j'ai fait l'ouvrage et je continue la thèse. Donc voilà, c'est parce qu'en fait à travers ce livre, vous vouliez vous adresser à peut-être à un autre public. Vous parliez tout à l'heure de vulgarisation, c'était une manière de partir dans ce sens-là.
Oui, c'est une manière de partir dans ce sens-là, de rassembler aussi toutes ces compétences un peu, enfin, et ces connaissances un peu éparses que j'ai glanées au fil des années. Parce que c'est vraiment un travail, enfin, la thèse, je suis pas la seule à le dire, mais c'est un travail très solitaire, de longue haleine, et qui, en fait, nous mobilise tout en entier, dans tout ce qu'on doit faire. Et la thèse est tellement longue que parfois j'ai l'impression qu'on dilue un peu ce qu'on a envie de faire. Et donc, j'avais envie de faire une synthèse, de rendre ça effectivement tangible, concret, et rendre ça visible. Pour tout ce qui est invisible et rendre ça accessible et effectivement me permettre aussi un autre ton qui n'est pas toujours possible dans la recherche, un ton peut-être plus militant, plus engagé, plutôt en lien avec tout ce que j'ai fait comme étude de genre et donc vraiment avoir un public effectivement plus large, enfin j'aime pas trop quand on dit grand public parce que ça veut tout dire et rien dire, mais en tout cas avoir un public qui ne se contente pas juste d'être universitaire mais qui peut glaner suite à ma recherche différentes choses qui peut l'intéresser, à la fois de l'histoire des sciences, l'histoire de la pensée, l'histoire des religions, le féminisme, tout ce qui est ésotérisme qui est quand même le vent aux poupes d'un point de vue académique aussi ou dans le milieu culturel, on compte plus le nombre d'expositions qui sont consacrées à ces questions, sans parler de la figure de la sorcières et des sorcières et en fait à quel point c'est réinvesti d'une dimension féministe. Donc toutes ces questions sont un peu au cœur. J'ai commencé cette recherche en 2017, donc ça remonte, mais c'est vraiment une intuition qui s'est matérialisée et concrétisée. Et au plus j'ai cherché, au plus j'ai trouvé en fait des choses extrêmement intéressantes, extrêmement porteuses et que j'avais envie d'exhumer vraiment et de mettre au jour pour que ça ne reste plus dans mes tiroirs et que je pose déjà un premier jalon pour ma recherche qui continue.
Alors l'ouvrage, il est, on y reviendra, il est très particulier dans sa forme, dans la diversité des angles qui sont abordés, etc. Mais avant de parler de ça, moi j'aurais bien voulu revenir à la source. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie d'explorer ce monde des médiums, ce monde qui, d'une certaine manière, peut sembler tellement peu universitaire?
Oui, non, je suis pas forcément d'accord avec ça, effectivement, mais en tout cas, la source se situe à l'ULB, donc c'est peut-être bien qu'on puisse en parler ici. Quand j'ai fait ma formation en langue, littérature française et romane, on a eu un cours entier consacré à Victor Hugo, et on pouvait choisir une thématique pour l'examen en rapport avec sa vie, son œuvre. Et je me suis intéressée à son exil à Guernesey et au fait qu'il ait fait tourner les tables à l'époque. Et donc c'était un des premiers, d'ailleurs, les spirites, on va y revenir, parlent beaucoup de Victor Hugo comme un pionnier en la matière. Il faut savoir que tout le monde a fait tourner les tables quasiment à cette époque-là. C'était vraiment une mode par excellence. Mais du coup, ça m'a intéressée de voir non seulement cette pratique, comment ça a influencé peut-être sa littérature, et en fait, cette partie un peu sombre et pas trop, en tout cas, exposée de l'histoire littéraire. Et celle-là, c'est une histoire littéraire canonique et assez connue. Mais donc, par la suite, quand j'ai dû faire mon mémoire de fin d'études pour langue, littérature française et romane, j'ai eu envie de voir un peu les liens sous-jacents qu'il peut y avoir entre spiritisme, donc c'est vraiment le courant institutionnalisé, en fait, créé par Allan Kardec, donc qui part du postulat de l'existence des esprits, qu'il y a une vie après la mort, qu'on se réincarne et qu'on peut communiquer avec ces fameux esprits, et le lien qu'il y a eu avec la littérature. Donc j'ai fait mon mémoire en 2012 sur ces questions-là, et déjà à cette époque-là, je me souviens qu'il y avait vraiment des implications à la fois politiques, religieuses, sociales, scientifiques exactement, et que j'avais vraiment fait d'un point de vue très sociologique les liens qu'avait eu le spiritisme avec différents champs, en fait, d'influence de l'époque. Et en fait, je m'étais déjà intéressée, j'avais déjà vu à quel point ça avait une influence sur les femmes. Donc il y avait une petite partie très très modeste de mémoire qui était consacrée. Et quand je suis partie de l'université, j'ai fait communication, je suis partie en Thaïlande, j'ai travaillé. Et cette pensée, cette recherche me restait un petit peu dans la tête, en fait. Quelque chose était un peu inachevé. Et c'est en 2017 où, en fait, ma directrice de thèse actuelle, Laurence Brognier, a sorti un article, justement, qui s'appelle « Bas bleu et drap blanc ». Et donc, c'est sur la littérature spirit féminine, qui est un peu un pont avec ce que j'avais fait comme travail 5 ans plus tôt. Et en fait, ça m'a remis un peu le pied à l'étrier. J'ai été la voir, elle m'a dit: vous voulez faire une thèse, banco, on y va. Et donc ce qui avait été une intuition et ses premiers jalons, en fait, se sont vraiment, les ferments ont vraiment pris. Et en fait, effectivement, je me suis dit: j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et en fait, j'ai trouvé un corpus énorme qui, même moi toute seule, je ne pourrais jamais arriver au bout. Donc c'est ça aussi, ça demande de faire des choix, et c'est parfois difficile de renoncer à tout ça. Mais donc c'est ça qui m'a donné envie de le faire. Et effectivement, on pourrait croire que c'est pas académique ou pas universitaire, alors qu'en fait, ça l'est. La vraie question, c'est qu'en fait, la croyance n'intervient pas. Ce qui m'interroge vraiment, c'est pas est-ce que c'est vrai, mais qu'est-ce que ça fait. C'est un fait social, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, extrêmement important. Comme je le dis dans le livre, et c'est un petit peu la base, beaucoup d'historiens et d'historiennes ont montré que les médiums étaient principalement des femmes, et donc qu'elles avaient une position un petit peu ambivalente, ambiguë, de médium au sens vraiment étymologique du terme, donc vraiment de passeuse entre les mondes. Et cette position-là leur a permis des libertés, ou parfois aussi des dominations qui sont particulières. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressée, c'est ce fait-là. Et qu'est-ce que ça fait pour l'écriture, pour la littérature? Parce qu'effectivement, c'est une histoire qui est de plus en plus connue. On a beaucoup de recherches sur ces questions-là, sur la question des femmes médiums, sur les photographies. Mais on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est effet physique de la médiumité, donc apparition, mouvement d'objets, typologie, donc c'est vraiment les coups frappés. Et en fait, c'est les parties un petit peu spectaculaires qui intéressent. Mais moi, ce qui m'intéressait justement par mon parcours de littéraire, c'est qu'est-ce que ça peut faire sur l'écrit, sur la littérature, et cette histoire plutôt invisible qui se trouve vraiment dans ces textes, et les textes des femmes en particulier, qui n'ont jamais été vraiment étudiés en tant que tels. C'est vraiment ça qui m'intéressait, et ça a été le premier jalon de cette recherche et du livre ici.
Alors avant de passer justement à l'aspect qu'est-ce que ça a comme impact sur les écrits, j'aurais bien voulu peut-être remettre le focus sur qu'est-ce que ça a comme impact sur les femmes. Alors, c'est vrai que vous disiez le point d'origine de votre recherche, c'est Victor Hugo. Voilà. Peu femme.
Absolument.
Voilà. Mais la majorité des médiums, effectivement, sont principalement des femmes. Alors, quand vous parlez de ce que ça peut avoir eu comme impact sur elles, c'est l'idée de la transgression, de pouvoir incarner quelqu'un d'autre, puisque on est la femme médium est le canal par lequel quelqu'un va pouvoir s'exprimer. C'est cette idée-là.
Il y a plusieurs dimensions, en fait. Une des dimensions, effectivement, et c'est un peu ce que je rappelle dans la quatrième de couverture du livre, c'est que dans l'histoire, de manière générale, on a beaucoup de figures féminines qui nous reviennent, comme les Pythies, les Vestales, les sorcières. Finalement, on a l'impression que les femmes ont été un peu les intermédiaires privilégiés entre les mondes visibles et invisibles, et qu'elles se sont mises en tant que canal passive ou intercesseuse, et finalement qu'il y a une forme de dépossession par rapport à ça. Ce que je trouve assez intéressant, c'est ça aussi, c'est que en tant que médium, on a une voix, mais c'est une voix qui n'est pas la nôtre. C'est une stratégie de délégation, vraiment. Elle disait parler pour des esprits, elle pouvait se permettre des discours un peu subversifs. Quand c'était plutôt des séances qui étaient avec des incarnations, elle pouvait se permettre des comportements plus subversifs, elle pouvait parler comme un homme, vraiment, à une époque, et ça c'est quelque chose qu'il faut quand même rappeler, le 19e siècle, c'est un des siècles les plus misogynes et les plus durs pour les femmes qui veulent créer vraiment encore plus, c'est ce que j'essaie de montrer un peu dans le livre, et donc tout ça est déjà subversif en soi. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est l'autre dimension qui m'intéresse aussi, il y en a vraiment plusieurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, comme je l'ai dit, le spiritisme part du postulat qu'il y a une vie après la mort, qu'en fait la réincarnation est possible et qu'on peut se réincarner au fil de toutes les existences, aussi bien en homme qu'en femme, qu'en fait les esprits n'ont pas de sexe ou de genre, et donc effectivement on peut se réincarner aussi bien en homme, en femme, aussi bien une personne d'une classe supérieure que d'une classe moyenne, une personne on va dire d'une autre race, en tout cas c'est comme ça qu'on appelait à l'époque. Et donc en fait on pourrait se dire ça règle un petit peu la question des inégalités, et ça met en avant une sorte de socialisme utopique, et il y a eu des liens très très forts entre le socialisme et les spirites à l'époque, si bien que un historien et essayiste, Philippe Meret, dit qu'en fait le socialisme ne serait rien sans cet occultisme qui a marqué le siècle. C'est un peu fort, mais moi je me pose un peu la question de me dire, est-ce que le féminisme aurait aussi des racines magiques finalement à prendre dans tous ces courants? Ça pose des questions un petit peu sur ces formes d'engagement. Par contre, ce que je veux montrer, c'est qu'effectivement c'est la théorie, c'est que les esprits n'ont pas de sexe ou de genre. Mais Kardec, donc, qui est vraiment considéré comme le pape du spiritisme, donc on a à la fois de nouveau une figure tutélaire masculine assez forte, rappelle quand même que l'esprit doit beaucoup à... En gros, il a des obligations dans le corps qu'il incarne. Et donc, il dit, voilà, les femmes avec leurs courbes, avec les choses comme ça, elles sont plutôt dans le côté féminin, passif et tout ce qui est maternité, tandis que l'homme est du côté de la force. Et donc, en fait, cette grande théorie universaliste et un peu égalitariste ne s'applique finalement qu'au monde des esprits, parce qu'une fois qu'on arrive dans tout ce qui est terre et qu'on est incarné dans un corps, on est tributaire, selon Kardec de nouveau, donc à l'époque, des attributs, des rôles du corps en question. Donc en fait, c'est une émancipation qui est un peu paradoxale, qui est quand même très fort liée à la doxa en vigueur, la doxa religieuse. Kardec était très catholique, par exemple. Et donc, certes, il y a quand même une volonté d'émancipation. On dit que le spiritisme donne le plus grand argument jamais donné aux femmes pour leur émancipation, mais c'est une émancipation qui se borne au fait que les femmes doivent être les grandes éducatrices de la nation et des familles, et donc à leur rôle genré de mère. Donc, on est quand même à une époque, on peut pas vraiment parler de vraiment féminisme, mais plutôt une sorte de proto-féminisme, en tout cas des premiers jalons et des premiers ferments qui ont donné une forme d'engagement de plus en plus poussée au siècle suivant.
Alors, tout ce dont vous nous parlez, évidemment, Stéphanie Peel, c'est une réflexion qui a été menée sur, voilà, les femmes spirites avaient ces possibilités de transgression, ça a eu un impact sur ceci, cela. Est-ce que, dans votre recherche, vous avez croisé des écrits, des sources, écrites par ces femmes ? Et qui mettrait en avant justement cet aspect de voilà, du fait que je suis spirite, cela me permet de.
Oui, c'est ça aussi qui est intéressant, et c'est pour ça que je m'intéresse au genre littéraire généralement. Dans ma recherche, initialement, j'avais envie de faire une sorte de pensée un peu linéaire, c'est-à-dire parler du spiritisme, puis après de la théosophie, de l'occultisme fin de siècle, et d'avoir une vision un peu linéaire. Et je me suis rendu compte que c'était assez enfermant parce que l'histoire n'est jamais linéaire, elle est cyclique, et qu'en fait, ça aussi, ça enferme ces femmes dans des sortes de modèles et des choses que j'ai envie de mettre en place. Donc, c'est un peu les décloisonner pour les recloisonner, ce qui était un petit peu problématique. Mais donc, c'est pour ça que je m'intéresse principalement au genre. Donc, dans le livre en question, je parle de littérature médiuminique. Donc là, par définition, c'est vraiment littérature qui, en fait, d'où la paternité. Je mets beaucoup de guillemets ici, et délégué à des esprits, donc elles ne sont pas les vraies autrices, elles délèguent. Je pense par exemple à Hermance Dufaux, qui était une jeune médium de 14 ans, qui aurait écrit la biographie de Jeanne d'Arc sous sa dictée. Et donc ça, c'est un des premiers livres qui a fait vraiment sensation à l'époque, parce que c'est vraiment une Jeanne d'Arc qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus... intime, beaucoup plus subjective. Il y a vraiment l'idée du jeu qui sort un petit peu et qui est assez intéressante. Mais donc en fait, après ça, ce que j'ai envie de pouvoir étudier, c'est justement d'autres formes d'écrit. Donc il y a eu pas mal d'autobiographies de médiums où elles parlent en fait finalement de leur expérience, comment ça les a... comment leurs dons leur ont permis d'évoluer, quels sont les dangers aussi, parce qu'il y a vraiment des dangers. C'est à la fois perçu comme un don dans un milieu et comme un danger, j'en parle dans le livre aussi. Ça a des liens avec tout ce qui est hystérie, évidemment. Et donc en fait, donc là il y a vraiment ce jeu qui émerge, qui est quand même, et ça aussi il faut le rappeler, pas si courant à l'époque, parler en jeu en tant que femme, à part dans les journaux intimes ou la correspondance, qui étaient des gens très très éculés et très cloisonnés, c'était pas si évident. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle stratégie qui se met en place grâce à leurs croyances et grâce, en fait, au fait qu'elles soient justement dans ces courants, c'est qu'elles disent qu'elles sont missionnées par les esprits. Donc, il y a une sorte de mission céleste qui, en fait, fait une sorte de petite, comment dire, ça les protège d'éventuelles critiques en disant, mais c'est pas moi, on m'a demandé d'écrire, c'est important. Et en fait, c'est intéressant parce que beaucoup de femmes parle vraiment de cette transgression, en disant j'aurais dû brûler les papiers sur lesquels j'ai écrit, le jeu est haïssable. Ça, c'est Lucie Grange, une médium, qui le dit. Donc en fait, elles se rendent bien compte que c'est transgressif, que c'est problématique, mais elles ont envie de faire un de parler, et elles trouvent des stratégies qui sont justement liées à ces courants, qui leur permet d'avoir une voix, d'être publiée et de quand même le faire. Et alors, cette partie-là de c'est parce que je suis dans ces courants-là que j'ai ceci, vraiment, j'ai trouvé un des livres, c'est vraiment la pierre angulaire, en fait, de ma recherche. C'est pas dans le livre ici, mais j'en parle un tout petit peu. C'est la médium Claire Galichon qui a écrit un livre qui s'appelle Ève Réhabilitée, qui est donc, c'était en 1909. Et en fait, elle dit clairement que c'est par le spiritualisme, c'est comme ça qu'elle l'appelle, parce qu'elle fait une sorte de fusion entre le spiritisme et le spiritualisme anglo-saxon. C'est par le spiritualisme qu'elle est devenue féministe. Et elle le dit clairement, que c'est ces pensées-là, que c'est cette pratique-là, cette vision du monde, cette vision de la mort. En fait, ça donne une autre vision de la mort, et donc une autre vision de la vie. Et donc, en fait, ça chamboule énormément. Ça permet d'ouvrir, en fait, des champs des possibles, des postulats complètement différents sur notre vie, sur la manière dont on a envie de la mener. Et en fait, elle explique clairement dans son livre, avec vraiment un aplomb et une plume vraiment extrêmement porteuse et intéressante, que c'est vraiment ces croyances, ces pensées qui l'ont menée à la pensée féministe, qui est, et ça je dois quand même le dire, un petit peu moins militante qu'à l'époque. Beaucoup de spirites se disent en faveur de la cause des femmes, mais ne se considèrent pas forcément comme féministes, parce qu'à l'époque c'était un petit peu vu comme justement tout ce qui est suffragettes, celles qui vont dans les rues, avec quelque chose qui est vu comme quelque chose de beaucoup plus l'ordre de l'action, voire un peu agressif par certaines. Et donc elles sont en faveur de la cause des femmes, mais en même temps dans une volonté un peu, comment dire ça, messianique. C'est une sorte de messie au féminin, de quelque chose de plus doux, une sorte de synthèse et une sorte de réunification de l'humanité. Et elles mettent plutôt en avant une complémentarité des sexes que réellement une revendications franches, en fait. Et donc elles ont envie vraiment de faire une fusion. Elles parlent toutes, on est quand même à la fin du siècle, d'une période décadente, matérialiste, assez particulière. Ça peut faire écho à ce qui se passe un peu maintenant, pour le coup. Et en fait, elles disent que c'est grâce à leur croyance, grâce à la venue d'un messie au féminin, donc elles font beaucoup de prophéties à cette époque-là aussi, que l'humanité pourra, en fait, renaître de ses cendres, être sauvée et pouvoir se réunir dans une sorte de fusion. On est aussi dans tout ce qui est androgyne, de finalement de ne plus être dans une dualité des sexes, mais une complémentarité qui permet une élévation spirituelle, sociétale et sociale.
Alors, si on repense au mouvement, dans l'absolu, au 19e, le spiritisme, est-ce qu'on le retrouve partout à ce moment-là?
Ça serait un petit peu exagéré de dire partout, mais en tout cas, comme je disais, c'est qu'au moment où, en fait, vers 1850, les tables tournantes sont arrivées en Europe. Donc, il faut savoir que le spiritisme, on le fait, la naissance du spiritualisme anglo-américain, en fait, c'est 1848. Donc, c'est à Iceville, dans l'État de New York. C'est, en fait, deux sœurs, c'est les sœurs Fox, en fait, qui emménagent dans une maison, qui, en fait, voient des mouvements d'objets, des choses un peu surnaturelles qui se passent, et qui, en fait, se disent que c'est l'esprit qui a hanté, et donc mettre au point un système avec des coups frappés pour pouvoir dialoguer avec l'esprit, un coup pour oui, deux coups pour non, et puis le fameux un coup pour A, un coup pour B. Je vous laisse imaginer le temps que ça devait prendre pour pouvoir justement tout déchiffrer. Et donc, en fait, c'est ce qui a donné vraiment cette vague, et on parle vraiment d'épidémie à l'époque des tables tournantes. Ça a été une distraction de salon, un peu comme on peut interroger ChatGPT ici, ou quelque chose, en tout cas une révolution dans la pensée. C'est quelque chose que tout le monde a voulu essayer, et quand ça arrive dans les années 1850, en fait, tout le monde, ou en tout cas les bourgeois peut-être, font tourner les tables dans leur salon. Donc c'est quelque chose qui avait l'effet d'une mode. On peut pas dire que ce soit vraiment tout le monde. La vraie particularité, c'est qu'au moment où Kardec publie le Livre des Esprits en 1857, il en fait vraiment une doctrine, avec des pratiques, avec des protocoles, avec des organes de propagande, avec une énorme littérature. Et en fait, il veut vraiment institutionnaliser les choses. Donc il a interrogé les esprits, non pas pour parler du voisin ou pour avoir des petits ragots, parce qu'en fait c'est un peu ce qu'on faisait dans les séances. C'était pas toujours très très sérieux. Lui veut amener une dimension sérieuse et interroge les esprits sur la vie, sur la mort, sur le mariage, sur comment ça se passe de l'autre côté. Et donc, en fait, le Livre des Esprits, c'est un peu une synthèse morale de toutes ces questions. Et donc la vraie différence, c'est qu'il a vraiment fait en sorte que ce soit aussi accessible. C'est donc Allan Kardec, son vrai nom, c'est Hippolyte Rivail. C'était un enseignant qui était très influencé par Rousseau, et donc il a fait énormément de livres justement éducatif, et on sent vraiment cette démarche éducative. Et donc, en fait, le spiritisme, même si Kardec adore rappeler que c'était les grands noms qui pratiquaient le spiritisme, et encore, en fait, c'était l'étape tournante qui pratiquait, en fait, c'était très très fort impliqué dans le milieu ouvrier, en fait, à l'époque. Et donc, en fait, c'était majoritairement justement le milieu prolétaire qui était intéressé par ces questions. Encore une fois, le contexte politique, social, il y a eu énormément de guerres, de révolutions, des morts. Et donc, en fait, c'est dans des contextes aussi de désolation où on se tourne vers quelque chose de consolation. Donc, ça a aussi expliqué sans doute le succès du spiritisme, et qui s'est d'ailleurs renforcé aussi avec la Première Guerre mondiale, et qui s'est un petit peu arrêté après la Deuxième. Mais il faut savoir que le spiritisme et le kardécisme est devenu une vraie véritable religion, par exemple actuellement au Brésil. Et là, donc, j'étais au Père Lachaise très récemment, et en fait, une des tombes les plus fleuries de tout le Père Lachaise, c'est la tombe d'Allan Kardec. Donc, il a toujours, en fait, ses représentants. C'est toujours quelque chose d'assez vivace. C'est pas quelque chose du passé. C'est quelque chose qui reste. Mais il faut dire qu'à l'époque, c'était quelque chose d'assez implémenté, qui a beaucoup fasciné, interloqué, intéressé. Tout le monde ne s'y est pas impliqué de la même manière. On peut pas dire que tout le monde était spirit. Mais en tout cas, c'est quelque chose clairement qui faisait partie de la société à l'époque.
It's quite wonderful to get to know these composers as people, and it is, of course, a great privilege. When Liszt first began to communicate music to me at length, he used to do so by guiding my hands over the pianoforte keyboard, rather in the same manner as automatic writing is performed. But he has changed his method now, and he usually dictates music note by note, in the same way as some of the other composers. He usually speaks in excellent English, which I think he's practiced a great deal since leaving our world. But when excited, he lapses into German. Sometimes he uses French. I can usually see Liszt quite clearly whilst he's communicating, although there are times when I hear his voice but cannot see him at all. When he offered to transmit Grubelai to me in the presence of three British Broadcasting Corporation officials, I felt his presence in the room at first, Then he appeared very clearly before me, looking very calm. He gave this piece of music by the process of dictation, and it was some weeks before I could play it passably well after having been given tuition by him. I asked him why he did not choose something more spectacular, such as a new Hungarian Rhapsody, which I thought would make a greater impression on the BBC officials. But he replied, with a little smile, that he thought the music he was giving to me would be far more impressive to them than a Hungarian Rhapsody.
Alors, si on revient à votre ouvrage, Stéphanie Pille, Les voix invisibles, assez rapidement, en fait, dans le livre, vous consacrez un chapitre justement à cet invisible et vous l'appelez l'invisible et l'inouï, inouï dans le sens ce qui n'est pas entendu.
Oui, je trouvais ça important. Bah, j'adore jouer sur les mots, évidemment. Je suis une littéraire et c'est vrai que c'est inouï. Je trouvais ça intéressant parce que ça pose vraiment la question de ce qui n'est pas entendu et ce qui est considéré comme extraordinaire. Et c'est un peu cette question-là. Je me pose la question au tout début de se dire on est dans une grande phase actuellement de visibilisation, en fait. On essaie de montrer les grands oubliés de l'histoire. C'est un petit peu, il y a une démarche historique, historiographique et féministe, vraiment de la pensée et de la recherche qui veut mettre en avant des figures oubliées et en fait de les rendre visibles. Mais effectivement, une de mes démarches, et que je trouvais importante, que j'essaye de faire, mais c'est pas toujours parfait parce que les voix manquent, justement, c'est de rendre audible, finalement. Et donc, cet invisible et cet inouï, pour moi, sont deux projets qui vont de pair pour non seulement montrer une réalité inégalités qui existaient, mais aussi revenir aux voix propres des femmes, parce que souvent, ça arrive très souvent que les sources qui nous restent, ce soit en fait des sources secondaires où on nous parle de ces femmes en d'autres termes. Par exemple, c'est assez courant dans le livre, je parle de la médium Helen Smith, son vrai nom c'est Elise Muller, et en fait ce qui nous reste d'elle, c'est un livre écrit par un homme, un psychologue en fait, Théodore Fournoy, qui a vraiment écrit sur elle, qui a écrit toute sa pensée et tous ses cycles romanesques, mais en fait il reste très peu de voix qui sont les siennes. Donc maintenant, depuis très peu de temps, ces lettres sont accessibles, les lettres qu'elle a envoyées à Fournoy, et j'avoue que je les ai vues avec une sorte de d'émotion de lire son écriture, de lire sa propre voix, alors que justement elle a été connue, visibilisée jusqu'ici, mais juste par le biais des écrits d'un homme en fait. Et donc effectivement, j'aimais bien jouer sur cette vision à la fois, effectivement, que ce soit visible et inouï, et essayer de revenir à une visibilisation et une audibilisation des voix jusqu'ici occultées.
Alors vous le disiez en début d'entretien, Stéphanie Pille, donc un des objectifs de votre thèse et de cette étape intermédiaire qui est le livre Les Voix Invisibles, un des objectifs c'était de travailler également l'élément littéraire. Vous le disiez tout à l'heure, les femmes médiums, les femmes spirites ont eu des possibilités de transgression de par le rôle qu'elles jouaient, le fait qu'elles incarnaient quelqu'un d'autre. Mais ce qui vous titillait, ce qui vous intéressait aussi, c'était de voir si ça avait eu un effet sur leurs écrits.
Oui, effectivement, une des particularités que je trouvais importante, c'est qui doit être rappelée, en fait, c'est que le spiritisme français par rapport au spiritualisme anglo-américain, en fait, s'attache davantage à ce qu'on a appelé l'écriture automatique, et qui a bien sûr influencé Breton et le surréaliste. C'est comme ça qu'on connaît encore cette appellation aujourd'hui. Mais donc, autant tout ce qui était effet physique, apparition d'objets, ectoplasme, etc., ça a été beaucoup étudié, et ça a aussi intéressé bien sûr les scientifiques en France. Mais Gardec avait une sorte de vision un peu privilégiée de ce qu'il appelait les médiums écrivains. Et donc, en fait, il y avait plusieurs possibilités, en fait, de faire surgir du texte. Soit les médiums, en fait, étaient dans un état de transe et complètement inconscientes et écrivaient. Soit elles étaient ce qu'on appelle médiums inspirés, elles étaient toujours un peu présentes, mais elles pouvaient écrire. Ce qui pose des problèmes aussi, parce que c'est effectivement les phénomènes qui sont les plus difficiles à prouver. Comment prouver, en fait, que c'est nous qui écrivons ou pas, c'est assez compliqué. Bon, tout à un moment, il y avait des systèmes un peu différents, comme une corbeille, donc qui tenait un petit appareillage en osier ou alors en fer très léger, qui tenait un crayon, et donc on mettait son doigt dessus et ça formait des lettres. Donc il y a eu aussi le Ouija qui s'est un petit peu homologué beaucoup plus tard, donc avec un pointeur qui pointe des lettres aussi. Donc voilà, c'est en fait la première chose qu'on a fait, c'est vraiment cette question de l'écriture. C'est vraiment ce langage-là qui s'est mis en avant, parce que même si on pense à la typologie et au fait des coups frappés, c'est toujours via tout ce qui est alphabet. C'est notre manière de pouvoir être dans tout ce qui est humain, et en fait c'est aussi concomitant avec l'invention de la télégraphie et du morse. Et donc en fait ces questions-là aussi de télécommunication sont extrêmement présentes. Beaucoup d'historiens et de chercheurs et de chercheuses, on peut parler de cette question. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est effectivement cette vision de Kardec qui mettait en avant tout ce qui était écriture, parce qu'effectivement, à cette époque-là, la littérature est aussi en grande mutation. On sort un peu du romantisme et de la vision du mage écrivain et du prophète, en fait, des générations. Tout ce qui est écrivain revêt une aura particulière. J'ai parlé de Victor Hugo, mais effectivement, c'est l'exemple le plus fort, en fait, de cette question-là. Et donc, l'écriture devient, entre guillemets, un enjeu de patrimoine extrêmement fort. Et donc, c'est par l'écriture que se mêle et se joue, en fait, le destin de ces médiums, parce que finalement, c'est la trace de ce qui reste. Et comme j'ai un peu expliqué, le spiritisme a énormément de sources. Il y a enfin, je crois qu'on devrait faire une sorte de recension de tous les organes de propagande. Donc, il y a eu la revue Spirit, qui a été créée par Kardec à la suite, donc, du livre des esprits, du livre des médiums, qui, en fait, a connu que deux interruptions et qui existe toujours aujourd'hui. Donc, elle a connu deux interruptions durant la guerre, je pense que c'est tout. Et donc, en fait, il y a énormément de numéros. Donc, c'est juste la revue Spirit, mais il y a eu énormément de revues Spirit et spiritualistes. Donc, en fait, les écrits sont prépondérants, sont partout. On se retrouve à une masse un peu informe, un peu indigeste parfois en fait de choses, et en fait c'est la trace tangible de ce qui s'est resté, parce que les comptes rendus des séances étaient bien sûr écrits. Outre les écritures des médiums elles-mêmes, c'était retranscrit, et c'est vraiment ce qui reste. Donc dans tout ce qui est littérature médiuminique, finalement, l'écrit c'est vraiment cette trace tangible de ce qui s'est passé et de cette manière de pouvoir communiquer avec l'invisible qui est vraiment liée à l'écrit. Et donc ça pose des questions bien sûr au point de vue de l'autorité, de savoir effectivement qui écrit. Ce qui est intéressant, c'est que bon, les séances souvent convoquaient des esprits souvent connus en fait. Ça pouvait être des esprits on va dire familiers et qui étaient connus dans tout ce qui était assistance, mais souvent on convoquait des grands noms comme Jules César, comme finalement Marie-Antoinette, Cléopâtre. Et donc en fait c'est pas anodin du tout qu'on essaie de faire parler les morts illustres. Et en fait, il y a une sorte de... Oui, c'est assez particulier, en fait, de voir ces écrits, ces comptes rendus de séance dans un style aussi parfois très moraliste, très ampoulé. J'en parle un tout petit peu dans le livre, mais c'est vrai que quand on voit, par exemple, comment on interroge ChatGPT et comment il nous parle, le style est assez similaire. C'est quelque chose, effectivement, d'extrêmement... comment dire, complexe, qui paraît intéressant, mais quand on gratte un peu le fond, on se demande si c'était vraiment si intéressant que ça et si c'était pas juste bien formulé en fait. Et donc en fait, il y a vraiment ce même idée d'interroger l'invisible à toute heure du jour et de la nuit, de trouver de l'autre bout du fil une sorte d'entité qu'on ne peut pas voir, mais qui assemble dans une sorte de chose un peu mal assemblée, un ensemble disparate et énorme de connaissances pour nous répondre sur tout et n'importe quoi. Ça pose un petit peu des questions. Et donc, cette question de l'écriture était extrêmement intéressante. Et alors, ce qui m'a aussi semblé particulièrement pertinent, c'est que ce sont des textes qui ont été étudiés par les spirites pour pouvoir prouver leur doctrine, plus tard par les scientifiques et par tout ce qui est aliéniste pour pouvoir prouver des symptômes d'une quelconque maladie, ou alors tout ce qui est découvert justement d'une forme d'automatisme, d'un dédoublement de la personnalité. Donc en fait, ça a mené à toute la découverte de l'inconscient. Et en fait, on oublie souvent, mais en fait, c'est aussi grâce à cette étude de la médiumnité que la psychanalyse contemporaine a pu se développer à ce point. Freud était très ami avec Jung et avec Théodore Fournois, qui avait étudié la médium Helen Smith. Et donc certainement que ces conclusions l'ont amené aussi à toutes ces questions-là. Et donc en fait, ces écrits sont jamais étudiés en tant que tels, mais ils sont étudiés toujours comme preuve, comme symptôme, comme quelque chose. Et donc j'avais parfois envie de revenir à ce qu'elles ont écrit, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire en tant que femme. Si on le prend comme une stratégie, qu'est-ce que ça leur a permis de pouvoir exprimer vraiment de pensée et de vraiment subversif à l'époque.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Stéphanie Pille de m'avoir accordé cette interview. Elle n'est pas terminée. La suite est prévue pour la semaine prochaine. Nous continuerons à éplucher avec elle son matériau de recherche, les voix des femmes, les voix des femmes médiums. Alors, la pause musicale que vous avez pu entendre durant cette émission, c'était Rosemary Brown, un extrait du CD Spectra Ex Machina sorti chez Sobrosa. Rosemary Brown, a retranscrit des œuvres de Liszt qu'elle avait reçu lors de visites de Liszt, d'un Liszt décédé. Donc Rosemary Brown était médium. Voilà, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve d'ici jeudi ou vendredi prochain pour un autre Histoire de Savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir.
What